11h midi, Studio B, Studio B.
C'est moi ça, vous connaissez pas ?
Qu'est-ce que tu fous là ?
Bah j'en sais rien.
C'est pour l'annonce.
C'est vrai que vous cherchez des sparring, puis du chômage, et puis du RSA.
Bon fou, j'en tomberai pas à l'usine.
Je me bouge et je trouve un taf.
Mais t'es sérieux là, devant maman ?
Je suis pas un ennemi de la liberté.
Dis-moi, j'ai le droit de le faire, toi aussi t'as le droit de le faire.
Il faut que tu t'habilles correctement.
On n'est pas d'accord,
Venez, suivez-moi.
Et le soleil est là, car je l'ai demandé.
Jusqu'à midi, Studio B, le magazine ciné de Beurre FM.
Avec un décompte bolos, bonjour, bienvenue sur Beurre FM dans Studio B. Moi c'est Christophe et avec Camille, jusqu'à midi, on va vous parler de cinéma. Ça va bien Camille ?
Ça va, bolos, tu parles de qui de nos invités ? C'est pas très sympa
non,
Christophe.
Non, pas du tout, à un moment dans le film ça dit bolos. Fallait trouver un B.
Oui,
elle t'aurait pris
bien.
Quoi ?
Non, c'est très bien.
Bon, merci. Ça
oui.
Va bien. T'as
ça
l'air
va,
un peu
c'est la. Bon, d'accord. Merci. Non, ça va très bien. Merci. C'est la fête du cinéma aujourd'hui, Christophe.
Exactement. Qui commence. Aujourd'hui, demain et après-demain, des séances à pas cher dans n'importe quel cinéma.
4€ la place. Donc ça vaut le coup d'y aller jusqu'à mardi.
Ah bah c'est grosso modo pour si vous nous écoutez sur Paris, environ 10€ de moins qu'une séance.
Voilà.
Donc ça vaut vraiment le coup et notamment pour aller voir Meltem, le film dont on va vous parler aujourd'hui. Mais on en reparle dans quelques secondes. Puisque avant d'accueillir nos invités, voici le programme de cette heure de ciné à la radio. Ma sélection des sorties de la semaine prochaine avec un film qui fait grave flipper, un thriller drôle. Et un documentaire sur les résistantes de la guerre d'Algérie. Et pour ceux qui préfèrent rester le dimanche soir à la maison, c'est Camille qui se charge du programme télé de la soirée.
Oui, alors on va sur TF1 et on regarde Bridget Jones Baby, le troisième volet de cette saga. Merveilleux.
À 11h30, votre rendez-vous actu avec dans le box-office, on verra qu'il aura fallu une alliance entre un super-héros et un auteur de bouquins pour détrôner enfin qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. Et puis Camille nous dira ce qu'elle a retenu de l'actualité de la semaine.
Oui, alors on parlera de cette pétition pour un retour de la carioca. Ah oui. La fan de la Cité de la Peur, vous saurez de quoi je parle. On va parler de Netflix aussi qui reforme un couple mythique de cinéma et des petits ennuis de Felicity Huffman qui joue dans Desperate Housewives.
Ce sera...
Des petits soucis avec la justice.
Ah, j'ai des gros soucis du coup.
Oui, un peu, oui.
Bon, on en reparle tout à l'heure à 11h30 dans le rendez-vous actu. Il est temps d'accueillir nos invités. Ils ne sont pas un, pas deux, mais trois. Enfin, deux pour l'instant,
oui,
mais
deux
trois.
Et demi.
Trois ce dimanche matin pour parler de Meltem, un beau film qui parle de plein de sujets en même temps, hein, de la difficulté du deuil, de la crise migratoire, de l'accueil réservé aux migrants, de préjugés racistes, mais c'est surtout une belle histoire d'amitié et d'amour aussi avec des jeunes qui deviennent des adultes. Camille, à toi de te présenter nos invités de la semaine.
Il est scénariste, réalisateur gréco-français. Il a d'abord fait des études de philosophie. Il réalise en 2012 son premier court-métrage de fiction, Le gardien de son frère, et en 2014, Journée d'appel. Son deuxième court-métrage sera sélectionné dans plus de 50 festivals en France et à l'étranger. Meltem est son premier long-métrage de fiction. Basile Doganis, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue sur Beurre FM.
Deuxième invité, Lamine Sissoko qui est avec nous. À une lettre près, il a le même nom qu'un joueur de Cora. Alors qui est une espèce de guitare de la famille de la harpe, voilà, si
d'accord,
vous voulez
savoir. Ça c'était important donc, de le savoir.
Un joueur de cora sénégalais, mais non, lui est bien acteur. On a pu le voir dans le film Tamara en 2016. Il a joué aux côtés de Rabah Naït Oufella, qui devrait arriver dans quelques instants, dans Journée d'appel de Basile Doganis. Lamine Sissoko, bonjour.
Et bienvenue à vous aussi sur Beurre FM. Et donc dans quelques secondes, devrait nous rejoindre Rabah Naït Oufella.
Voilà. Je le présente quand même.
Oui, présente-le
voilà,
quand même.
À seulement 26 ans, il a déjà joué dans des films à grand succès, critique et public. On peut citer Entre les murs de Laurent Cantet, Bande de filles de Céline Sciamma et Grave de Julia Ducournau, film dans lequel il se fait dévorer vivant. Donc Rabah Naït Oufella que l'on attend.
Que l'on attend et qui devrait
bonjour.
Arriver dans quelques minutes.
Merci Lamine.
Lamine, bon camarade. Non, pas du tout, il était là.
Vous pouvez faire les deux, du coup.
Je me fous. On va laisser tomber alors.
Ouais.
Allez, on a une tradition dans le studio B. Pour le coup, Rabah va y échapper. Mais vous êtes là, donc vous n'y échapperez pas. Deux questions qu'on vous demande de choisir. Une question que vous avez envie qu'on vous pose et on vous la posera dans l'émission. Une question que vous n'avez pas envie que l'on vous pose, il faut nous la dire et on ne vous la posera pas dans l'émission. Voilà, parce qu'on vous donne comme ça la possibilité d'avoir un joker. On commence par qui ? Basile peut-être.
Ah donc il faut les dire, ok.
Exact, bah oui, tant qu'à faire.
Okay. Non mais comme je vous disais tout à l'heure, la question à ne pas poser, il n'y en a pas, donc très bien, vous pouvez me poser toutes les questions. Et celle à poser, j'aimerais bien qu'on discute à un moment des stéréotypes. Voilà.
Très bien.
Vraiment une question sur les stéréotypes. Ça me
très bien, c'est noté.
Et bien on discutera donc de stéréotypes, il n'y a pas de souci. Lamine.
Moi c'était plus une question sur le tournage. Par rapport à comment on a tourné avec les migrants. Et du coup voilà, c'est plus une question sur ça et une question que je veux pas qu'on pose comme Basile, non j'en ai pas.
Ok, aucun tabou.
Mais c'est tabou.
Vous vous dites ça parce que vous ne connaissez pas encore Camille. Hein. Allez, vous écoutez Beurre FM.
On peut nous sommes après.
Non, c'est trop tard.
Trop tard après. Allez, vous écoutez Beurre FM. Nous sommes le dimanche 17 mars et nous sommes en direct. Bienvenue dans le 88e numéro de Studio B.
Studio B, les sorties ciné de la semaine.
Et mercredi prochain, vous pourrez aller voir Us.
Alors, si vous n'aimez pas les films qui font peur, passez votre chemin. Une famille part en vacances. Sur la route, ils s'ambiancent en écoutant de la musique.
C'est une chanson d'anthologie.
Sans le rythme.
Ça y est, tu l'as.
Bon alors jusqu'ici tout va bien, hein, mais le soir arrivé, dans leur maison de vacances, des gens s'approchent de leur maison.
Il y a une famille dans notre allée.
C'est probablement les voisins. Vous avez peur d'une famille?
Bonjour, je peux vous aider?
Zara, mets tes chaussures.
Mais vous êtes qui?
Alors visiblement ces gens qui sont très bizarres leur en veulent, mais ils savent pas pourquoi, et soudain c'est une évidence.
Ils sont nous.
Ils pensent comme nous. Ils sont exactement comme nous. Ils savent où on est.
Il faut partir le plus loin possible.
Ils s'arrêteront que quand ils nous auront tués. Ou qu'on les aura tués.
Alors, peu d'infos ont filtré sur ce film. Le réalisateur, c'est Jordan Peele. Il avait fait Get Out il y a 2 ans. C'était déjà un film d'horreur, hein, Get Out, où le racisme avait une place importante. Ce sera moins le cas dans ce film, même s'il a tenu à filmer une famille noire. Le thème, c'est plus la notion que nous sommes tous nos propres ennemis. Voilà, donc c'est Us, ça sort ce mercredi. Allez voir la bande-annonce parce qu'elle est vraiment géniale. Là, il y a la musique comme ça qui augmente et qui devient de plus en plus bizarre au fur et à mesure que le film devient bizarre. Voilà, la bande-annonce est géniale. Le film a l'air aussi génial. Us, ça sort ce mercredi.
Walter,
alors, il y a quelques semaines, on vous parlait du premier film des Déguins. Les revoilà, aux côtés notamment d'Alban Ivanov, du youtubeur Tonio Life et de Samuel Dian, alias Bambi, du duo Younes et Bambi. Une belle équipe qui rentre dans un supermarché pour le braquer.
Il y a une voiture qui vient de se garer sur le parking.
C'est juste le vigile.
Fouille-le.
Alors ce vigile, il pense le maîtriser rapidement, mais ils ne savent pas vraiment qui c'est.
Ici le responsable de la sécurité Walter Kikamba. Notre magasin va fermer ses portes dans 5 minutes.
Je vais vous envoyer en enfer.
J'ai nommé Walter le Sanguinaire, ancien chef de guerre africain.
Vigile, c'est un psychopathe!
Alors vous aurez compris, c'est une comédie, hein. On en parlera plus longuement dimanche prochain, puisque le réalisateur Varant Soujian et les Déguins seront nos invités dans Studio B. Donc rendez-vous donc dimanche prochain, 11h midi.
Résistante.
Un film sous-titré, Tes cheveux démêlés cachent une guerre de 7 ans. Après des décennies de silence, Evelyne, Zolira et Alice racontent l'Algérie coloniale, la ségrégation, le racisme, la prison, la torture et la liberté. Bande annonce.
Quel intérêt on a à falsifier l'histoire? Les jeunes nous disent, vous nous mentez. Ça ne nous intéresse pas, votre guerre. Il nous l'a dit, l'on dit. Pourquoi vous avez sorti la France? Alors moi, quand on me dit « vous avez sorti la France », j'ai envie de hurler.
On vivait tout à fait séparés des musulmans. C'était des êtres humains qui étaient dans un décor, qui servaient, mais on les a rendus invisibles.
Vous êtes aussi d'accord avec la lutte armée?
Mais bien sûr, sans quoi je ne serais pas au FLN.
Quand on s'engage, je crois qu'on est carapacé, je ne sais pas. On est endurci, parce qu'on y croit.
Je suis arrêtée le 13 novembre 1956. Je me souviens quand on a été condamné, Denise à 1 an, Zoulira à 2 ans, moi à 3 ans. Je suis arrivée en glissant jusqu'à la cellule et j'ai crié 1, 2 et 3, mais on sortira ensemble.
J'étais pour l'indépendance de l'Algérie et pour la construction d'une nation algérienne, mais je n'ai jamais été pour un patriotisme aveugle.
Voilà, Résistante, ça sort aussi ce mercredi au cinéma et on en parlera aussi dimanche prochain par téléphone avec le réalisateur du film.
Tout à fait, et à voir aussi cette semaine.
Du miel plein la tête. Alors ça c'est un beau film sur un couple anglais qui accueille chez eux le père du mari qui est atteint d'Alzheimer. Et finalement c'est la petite fille qui va vraiment tout faire pour bien s'occuper de son papy. C'est tout mignon, du miel dans la tête, ça sort aussi ce mercredi. Comprenez un revolver. Des gamins au Mexique qui complotent. Ouais, t'as vu, j'ai bossé l'accent espagnol, hein. je l'ai répété 15 fois avant.
Impressionnant.
Comprenez un revolver. gamin donc au Mexique qui complote pour éliminer un chef d'une bande de narcotrafiquants. La bande-annonce laisse penser que ce film est bien réalisé. Ça sort aussi ce mercredi. Et puis enfin, La Flore, partie 2. Alors la partie 1 est en ce moment en salle. Il y en aura 6 au total et chaque épisode est sur un style différent. Film d'espionnage, comédie musicale ou série B par exemple. Leur seul point commun, les 4 comédiennes qui restent les mêmes sur chacune des parties de ce film en 6 parties. Donc La Flore, c'est original, un vrai objet de cinéma dont il fallait vous parler dans une émission de ciné. Donc La Flore, c'est en ce moment au cinéma aussi. Et puis, le cinéma, c'est aussi à la télé, en tout cas le dimanche soir. C'est Camille qui nous guide et tu nous incites à aller sur TF1 ce soir.
Tout à fait. Alors ce soir à 21h, vous me trouverez, en tout cas moi, devant TF1. Donc je passe la soirée avec Bridget Jones. J'avais déjà passé voilà, un excellent moment hein, durant le premier volet. Là, c'est le troisième. On découvrait donc là, le premier épisode Bridget Jones, le journal de Bridget Jones. Une célibataire d'une trentaine d'années qui essayait de trouver sa place au milieu de tous ces couples, qui essayait de se définir sans projet ni de mariage ni de bébé, mais en tant que femme tout simplement. Bon, elle finissait quand même avec l'homme parfait, Monsieur Darcy, l'homme idéal imaginé par l'écrivaine Jane Austen et désespérément cherché par toutes les femmes célibataires du monde entier depuis. Bon, bah, sans succès. Hein.
Bon, Bridget... il est que dans les films, celui-là.
Ouais, non, il n'existe pas, il faut s'y faire. Bon, Bridget, elle a réussi à le trouver, son Monsieur Darcy, et le deuxième volet les montrait filant le parfait amour, avec quelques embûches, certes, mais ils finissaient quand même ensemble, et c'était le principal. On était alors plus qu'impatients de découvrir ce qui allait se passer ensuite, et là, catastrophe. Dans le troisième volet, on retrouve Bridget, 40 ans, encore célibataire, et double catastrophe, Hugh Grant n'est plus au casting. Il est remplacé par Patrick Dempsey, alias Dr Mamour, pour les fans de Grey's Anatomy, et c'est le nouveau rival de Monsieur Darcy. Alors, je suis toujours très heureuse hein, de retrouver le personnage de Bridget Jones, auquel forcément on s'attache dès le premier volet, mais je dois avouer que ce Bridget Jones Baby n'a pas la même saveur. Déjà, Patrick Dempsey est très séduisant et sympathique, mais soyons sérieux, ce n'est pas Hugh Grant. Et si dans les deux premiers, on hésitait toujours bah, entre Hugh Grant, ce bad boy, et le monsieur parfait, Mark Darcy, bah là, ce jeu de rivalité, il est vite gagné. Il ne fait pas du tout le poids face à monsieur Darcy, toujours interprété par Colin Firth. Alors, je vous laisse le suspense quant à celui qu'elle va choisir. Et d'ailleurs, même les acteurs ne savaient pas, puisque le réalisateur avait fait tourner plusieurs fin aux acteurs et c'est qu'à l'avant-première qu'ils ont eu la réponse voilà, de avec qui elle finissait. Alors si vous ne l'avez pas vu, vous aurez cette réponse ce soir à 21h sur TF1.
Voilà, on n'oublie pas que c'est la fête du cinéma aussi et que...
Oui, on peut sortir ce soir.
Comme on est dimanche, bon. Que la séance est à 4€, ça peut être pas mal aussi d'aller au cinéma. Mais donc sinon, Bridget Jones, donc c'est ce soir à 21h sur TF1.
Studio B, l'interview.
Allez, on en arrive à notre interview de la semaine. Alors que Rabah Naitoufel nous a rejoint. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Vous avez de la chance, vous avez échappé aux questions qu'il faut vous poser ou pas vous poser.
Ah bon ?
Vos deux camarades ont eu beaucoup de mal à...
Moi, j'ai aucune question qu'on n'a pas le droit de me poser.
C'est l'équipe sans tabou.
On a tous répondu pareil.
Ils ont dit la même chose. Alors Camille, il va s'en donner à cœur joie. Ouais. On va commencer par le pitch du film. Si vous voulez bien, on va le faire, vous allez le faire tous les trois. C'est Basile qui va commencer. Donc voilà, l'idée c'est de raconter de quoi parle le film. Je dis top, c'est Rabat qui poursuit. Et je redis top, c'est Lamine qui poursuit. Ok ?
Ça va être de moins en moins clair.
Et ben alors, faisons-le dans ce sens-là. Basile, c'est parti. De quoi parle le film ? De quoi parle Meltem ?
Donc c'est l'histoire d'une bande d'amis, donc Elena franco-grecque, Nassim franco-algérien et Sekou franco-sénégalais qui vont sur l'île de Lesbos en été parce qu'ils ont été invités par Elena qui a besoin de s'y rendre pour vendre la
et
maison
top,
de
c'est
Rabat
qui continue.
avec qui elle a coupé les ponts, donc la maison de sa maman, avec qui elle a coupé les ponts, sa mère vit avec son beau-père. Et donc elle décide d'y aller avec ses deux amis, aussi camarades de classe, et qui ils ont pour projet d'ouvrir un food truck. Donc peut-être que l'argent de cette maison pourra ouvrir
et
servir ce
top,
food truck.
C'est la mine qui pense.
Et par la suite, en fait, on fait la rencontre de Karam, qui est Elias. Oui, qui s'appelle Elias. On va pas laisser finir, c'est mon tour, chacun son tour, les gars, on déconne.
C'est vrai, laissez-le.
Et par la suite, en fait, on se rend compte que c'est un réfugié. Et on veut l'aider à retrouver sa mère, en fait, avec qui il a été séparé dès qu'il est arrivé sur l'île de Lesbos.
Et ben voilà, moi j'ai trouvé,
ça
très
classe. Ils se marient et font des enfants.
Ouais, c'est ça.
Ils vécurent heureux. C'est Rabat le mec parfait, en fait.
Ah, c'est Monsieur Darcy.
Exactement.
Moi, je voulais savoir, donc, Basile Doganis, c'est votre premier long métrage de fiction.
Oui.
Pourquoi avoir choisi ce sujet ? Pourquoi avoir mis vos caméras à Lesbos et avoir voulu parler des migrants ?
Le film, il parle pas. C'est pas un film sur les migrants. Hein. C'est vraiment le contexte de l'île de Lesbos de 2015 qui est très particulier, avec à la fois la crise économique en Grèce. C'était l'époque, si vous vous souvenez, du Grexit, où il était question que la Grèce sorte ou pas carrément de l'euro, voire de l'Union européenne, la crise migratoire. Et en fait, c'était plus le théâtre de l'action que j'imaginais, qui était, elle, plus centrée sur des personnages qui eux-mêmes avaient des parcours d'immigration, en fait, puisque donc les trois personnages ont chacun une histoire d'exil, de migration, de double appartenance. Et en fait, pour moi, c'était, comme c'est des questions qui me travaillent depuis toujours, parce que moi-même, j'ai cette double appartenance. Je suis arrivé en France à 3 ans, j'ai été naturalisé depuis, mais donc voilà, j'ai d'abord été étranger en France, puis naturalisé français. Donc ça, c'est des questions de toute façon qui me travaillent depuis toujours et que j'ai exploré aussi dans mes courts-métrages. Et dans le long, j'avais envie un petit peu à la fois de me confronter encore à ces interrogations-là, mais en élargissant cette interrogation à la situation plus générale de la crise migratoire qui se pose à l'Europe tout entière. Et même si c'est une histoire qui se passe entièrement sur cette île de Lesbos, c'est quand même une histoire sur la France pour moi. C'est vraiment un film vraiment sur la France.
Puisque les trois personnages viennent de France notamment, et puis on va pouvoir développer tous ces sujets. Vous êtes avec nous tous les trois jusqu'à midi sur Beurre FM. On parle donc de Meltem, le film est à l'affiche, c'est la fête du cinéma, vous pouvez le voir pour 4 euros à peine. Restez avec nous tout de suite.
Jusqu'à midi, Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. Beurre FM, 11h midi, Studio B avec Christophe et Camille. Et
merci d'être avec nous, bon dimanche, vous écoutez Beurre FM, c'est Studio B. Comme chaque dimanche, on est là entre 11h et midi pour parler de cinéma et pour parler d'un film en particulier. Cette semaine, c'est Meltem, le film est à l'affiche. Nos trois invités, c'est Basile Doganis, le réalisateur, Rabban Itoufella qui joue dans le film, Lamine Sokho qui joue aussi dans le film. On parle avec eux juste après la bande-annonce.
I am Sekou, she's Elena and she's Bolos.
Bolos, hi.
Pourquoi ça va être ça les vacances?
L'ambiance est moisie, mais là-bas, c'est une dingue. Welcome to Voral.
On va ensemble.
Ça, c'est l'hospitalité grecque, frère. Thanks.
Putain, t'as la même tête que quand t'étais petite. C'est ta mère à côté?
Faut cool que vous soyez là.
Moi, je crois que je vais pas faire le ramadan aujourd'hui. Je rattrape après demain.
Ah, donc toi, tu crois que le ramadan, c'est comme la pilule du lendemain, en fait?
Elias.
Enchanté. Je viens de Syrie. Je suis arrivé il y a quelques jours.
Faut qu'on l'aide à rejoindre sa mère.
T'en ferais autant si tu le kiffais pas?
Putain, tu comprends vraiment rien.
Laisse-moi toi. Qui que ça se rend paumé sans racine là. Tu sais même pas où tu vas. T'es là, tu crois que tu vas sauver le monde.
Cours, Elias.
Elena.
Welcome, refugees.
T'as vu? Ils nous croient pour des clandos à cause de ta tête de blédard là.
Je vais parler de blédard, Tiricou.
Basile Doganis, vous parliez de votre film qui parle de la France avant tout, et pourtant ça se passe en Grèce. Est-ce que votre premier long métrage allait forcément se passer en Grèce? Est-ce que voilà, c'était écrit
Non, en fait, aussi ce que les gens ne savent pas, c'est que très souvent, un premier film, c'est aussi plusieurs films qui ne se sont pas faits. Donc moi, c'était pas non plus... j'avais vraiment un autre sur lequel j'avais travaillé longtemps et qui a finalement pas pu voir le jour. Et ça, ce serait passé en France. Et puis j'avais aussi encore 2 autres projets avant non plus qui n'ont pas pu se faire pour X raisons. Donc voilà, après c'était plus et un concours de circonstances et l'actualité grecque des années voilà, 2015-2016 qui a fait que je me suis dit que là-bas il y avait une sorte d'urgence et d'évidence. Et puis évidemment moi ça me touchait d'avoir un film franco-grec qui était comme moi du coup, et c'est comme ça que ça s'est fait, mais non, c'était pas voulu forcément dès le départ.
Ouais. Ça se passe sur une île, on va rejoindre un petit peu la question que vous vouliez qu'on vous pose concernant les stéréotypes, et pourtant voilà, ça se passe sur une île et c'est loin de tous les clichés, c'est pas un film carte postale du tout. C'était vraiment voulu ça, de montrer la réalité et aussi au niveau des personnages. Voilà, votre trio qui vient de banlieue et qui pourtant n'est pas dans les clichés absolument des racailles comme on dit, voilà.
Non, bien sûr, et puis ça me fait plaisir que vous le disiez, que vous l'ayez pris comme ça, parce que oui. C'est vrai que souvent en fait il y a un petit problème, je trouve, hein, en France, dans la perception qu'ont certaines personnes de la représentation des banlieusards à l'écran. En fait, presque par un réflexe pavlovien, dès qu'il y a un banlieusard qui parle, les gens disent c'est un cliché, c'est une caricature, c'est un stéréotype. Et très souvent, cette opinion vient de personnes qui ne connaissent strictement rien à la banlieue, qui n'ont jamais grandi avec des banlieusards, qui ne les ont jamais côtoyés, qui n'en sont pas eux-mêmes. Et en fait, ça, je trouve ça à la fois extrêmement insultant pour les comédiens qui incarnent ces personnages, comme s'ils étaient stupides et qu'ils n'étaient pas capables eux-mêmes d'interpréter leurs personnages sans y apporter de la nuance et leur humanité et leur vécu. Et moi, j'aimerais bien que ces personnes disent en face de Rabat ou Lamine que c'est des clichés. Et l'autre point, en fait, c'est que cette question, ça dénote vraiment une espèce de racisme de classe, voire de racisme tout court, inconscient. C'est-à-dire que les gens, à partir du moment où ils perçoivent quelqu'un qui n'a pas les mêmes codes, ils perçoivent ces autres codes ou ces autres conventions comme un cliché. Mais ce qui vaut aussi, par exemple, pour le monde paysan ou des gens qui auraient l'accent marseillais, ils disent « Ah, la caricature de Marseillais !» Mais c'est son accent, en fait. Donc, très souvent... Il y a ce rapport qui est très problématique en fait avec la représentation du stéréotype et des gens qui arrivent même pas à comprendre un autre type de convention que les siennes. Et c'est vrai que moi ça c'était quelque chose que j'ai entendu assez souvent et sur mes courts-métrages et parfois heureusement très rarement parce que du coup les gens qui connaissent bien la banlieue, les banlieusards n'ont jamais ce genre de retour. Mais voilà, ça c'est une question.
Mais vous avez eu cette réflexion-là que c'était cliché.
Bah, j'ai pu l'entendre ou le voir, mais précisément de personnes qui n'y connaissent rien. Donc c'est d'autant plus étonnant en fait que. Mais encore une fois, pour moi, c'est un problème plus profond parce qu'il y a un vrai, évidemment, c'est une des questions les plus brûlantes en France, enfin les plus névrotiques, quoi. Hein, cette question du rapport aux banlieues, du rapport à l'immigration en France. Donc c'est sûr que ça déchaîne les passions, mais les gens parfois ne sont même pas conscients de leurs a priori quand ils ont ce genre de réflexion, ne se rendent pas compte en fait que ils sont eux-mêmes dans la caricature de ce qu'ils dénoncent en fait. Donc c'est ça qui est assez étonnant. Et après pour revenir vraiment au film et un autre rapport au stéréotype que j'avais eu envie de briser, c'était aussi le stéréotype des migrants. Par exemple, le personnage incarné par Elias dans le film. Par Karam, donc, qui joue Elias, Karam Al-Khafri. En fait, je voulais surtout pas que lui-même soit perçu tout de suite avec l'étiquette de migrant sur le front. C'est pour ça que j'étais très content de faire la rencontre de ce jeune homme qui n'était pas du tout comédien, qui était vraiment un réfugié donc palestinien de Syrie, arrivé en France depuis peu.
Et vous l'avez entendu à la radio,
exactement,
c'est ça ?
Exactement, donc c'est par sa voix en plus, je ne savais même pas à quoi il ressemblait, mais il s'est trouvé que par un très heureux hasard, déjà il était très beau, il avait un regard très profond et très, très expressif, et par ailleurs il avait aussi un type physique qui aurait pu le faire passer pour un occidental en fait. Donc c'était pas à tous les niveaux en fait, on n'était pas dans le stéréotype du migrant forcément basané, forcément en plus avec une mine déconfite par la dureté de son périple. Et lui donc il a cette grâce par ailleurs dans la vie, c'est quelqu'un qui était dans un orchestre de musique classique en Syrie et qui jouait de la clarinette, et du coup c'est un élément qu'on a intégré à son personnage, donc a priori on se dit pas quand il apparaît dans le film que c'est un migrant. Et pour moi c'était très important qu'on voit d'abord l'humanité du personnage avant sa catégorie, son étiquette en quelque sorte. Mais ça c'est quelque chose que j'ai voulu pour évidemment tous les personnages, oui. Et j'y tiens particulièrement, c'est des questions qui me tiennent à cœur, voilà.
Votre film s'appuie sur un trio donc d'amis. Rabat, Lamine, vous avez joué dans Journée d'appel, un de vos courts-métrages, Basile. Est-ce que du coup le casting était déjà dans votre tête? Dès ce court-métrage, vous vous êtes dit bon bah ça, je vais faire mon long-métrage avec eux.
Moi, j'ai écrit les personnages de Nassim et Sekou pour Rabat et Lamine. D'accord. Ça c'est clair et net. Il n'y a pas eu de casting pour leur rôle.
Donc c'était déjà, vous étiez déjà dans l'aventure avant que le film se fasse.
Je confirme.
Ça fait plaisir.
Vous avez joué avec des migrants. Donc, comme vous le disiez, Basile, il y a des migrants qui n'étaient pas acteurs, qui ont joué dans le film. Moi, je voudrais savoir comment s'est passé le tournage avec eux. Comment vous, comédien professionnel, vous avez fait pour jouer avec eux? Lamine.
Déjà, pour commencer, je ne suis pas comédien. Donc, je vais laisser Rabat Naoutou faire.
D'accord. Que faites-vous ici, alors, du coup?
Personne ne veut me répondre. Hein.
Non, mais.
Rabat, j'ai le taxi, je vous ai ramené. Merci.
Exactement. J'ai rapporté les croissants, maintenant je vais
parler. D'accord.
Bonne journée à vous.
Merci,
bon,
c'était sympa.
C'était les réponses aux questions ou les croissants. Lamine a choisi les croissants.
Mais suite à l'humilité de Lamine Sissoko, je vais prendre la parole
voilà.
pour ce point-là. Le premier jour de tournage.
enfin, je parle pour moi, après ça n'engage vraiment que moi, c'est mon expérience personnelle. Le premier jour qu'on a fait avec eux, c'était cool. On a essayé de discuter, on a essayé de se comprendre. On parlait en anglais et tout, c'est un peu compliqué. Nous, c'est beaucoup English with a geste, l'un à l'autre. Donc, du coup, au début, je sais pas, il y avait une petite distance du fait qu'on se connaissait pas et que. Je sais pas, eux devaient aussi peut-être être impressionnés par le tournage, vu que je pense qu'ils n'en avaient jamais vu. Et ensuite, petit à petit, voilà, en discutant, on apprend à se connaître et tout, et puis ils commencent à me montrer des trucs. Il y en a même un qui me montrait. En fait, il y en avait un qui venait de Syrie qui m'a montré son torse, qui avait plein de cicatrices, etc., de balles et tout, parce qu'il revient de la guerre, il était avec sa femme, ses enfants. Il y en avait des autres qui venaient du Pakistan qui m'ont raconté un petit peu leur histoire. Et franchement, c'était très intense, on va dire. Je pensais pas que ça allait me toucher à ce point. Ça, c'était pour la première journée. Et ce qui est difficile, en fait, c'est de tourner avec eux toute la journée, de kiffer, en fait, de passer une bonne journée. Et le soir, nous, on rentre à l'hôtel et on rentre dans le camp. Ça, c'est compliqué. Moi, je sais que ça m'avait bouleversé, ce jour-là. Et puis, on en avait fait un deuxième avec d'autres personnes où là, j'ai préféré peut-être égoïstement prendre un peu mes distances. Parce que voilà, je sais que ça me rend triste. Ouais.
Et est-ce que justement vos deux personnages sont pas là pour apporter un peu de légèreté dans cette histoire, voilà, de migrants qui est un peu lourde? Est-ce que vous avez pensé vos personnages comme ça, comme la petite touche de légèreté de comédie du film?
Mais même pas que, parce que ce côté plombant aux migrants dont on parle, en fait, il y a pas que ça, il y a toutes les scènes en fait. Où Elena, elle a pas un rôle ingrat, mais elle a le rôle quand même qui est toujours triste, qui est toujours. Enfin, elle est quand même en deuil. Elle retrouve son.
Elle paraît pas sympa tout le temps, en fait.
Non, elle est pas. Oui.
Mais c'est son rôle qui est comme ça. Et elle retrouve son pays avec lequel elle avait coupé les ponts depuis pas mal d'années. Donc, c'est un peu bouleversant pour elle. Donc, si je pense que. Basile le dira mieux que moi, mais si on filme que ça, c'est. Assez plombant et il faut garder un rythme aussi. Et je pense que nous, nos personnages, on les a pensés comme ça. Il y a des moments où est-ce qu'il y a des vannes, des moments où est-ce qu'il y a de l'impro, des moments où est-ce qu'on rigole. C'est pour.
Juste sur. Toi, Lamine, tu voulais ajouter un truc là-dessus?
Non, ou... non, vas-y.
Il est là pour les cafés.
Je voulais juste te dire, en plus de ce que vient de dire Rabat, que pour le coup, c'est pas juste dans le mélange des genres que j'ai voulu faire et opérer dans le film. C'est pas d'un côté le film dramatique porté par Elena et son deuil, et de l'autre la touche comique par le duo incarné par Rabat et Lamine. L'idée c'est qu'il y a un mélange de genres de toute façon et ça circule de tous les côtés. Donc effectivement, le personnage d'Elena, pour aussi montrer à quel point elle part de loin et d'un endroit très sombre à cause de cette histoire de deuil et de refoulement de son identité grecque, il a quelque chose d'un petit peu cassant, mais pour créer ensuite une évolution de ce personnage. Et pour ce qui est du duo, qui certes est plus associé, en tout cas au début, aux scènes comiques, il y a presque un processus inverse, c'est-à-dire qu'il y a aussi une gravité qui vient chez ces deux personnages. Par exemple, ce qui est vécu par Sekou, incarné par Lamine Sissoko, toute la question aussi de la crise, il l'apprend. Il y a un moment où on voit aussi que dans son attachement à l'université, au monde universitaire, incarné par le beau-père d'Elena, on sent qu'il y a quelque chose aussi chez lui de refoulé, qu'il aurait aimé faire des études en France, qu'il n'a pas pu en faire. Il est ému par ça. Et le personnage de Nassim, incarné par Rabah Naïtoufella, il porte une question essentiel dans le film. C'est pas du tout juste des parenthèses comiques. C'est qu'il y a cette question vraiment de l'identité fantasmée pour lui. Alors que le personnage de Sekou, on sent qu'il a un vrai équilibre et une vraie sérénité dans ses identités multiples, et françaises et sénégalaises, mais très tranquille. On sent que le personnage de Nassim, il est beaucoup plus tiraillé. Il fait un refoulement de son identité française. Il a une espèce d'exaltation un peu fantasmatique, quoi, de son identité algérienne, sans même connaître vraiment son pays et sa religion. Et voilà, en fait, je voulais aussi montrer enfin faire en tout cas un nuancier de toutes les possibilités du rapport aux identités multiples.
Oui, on en reparlera d'ailleurs, il y a une très belle scène montrant le personnage incarné par Rabat qui se défend d'être français. Et voilà, et on sent ce tiraillement pendant tout le film, donc oui.
Joue bien aussi.
Exactement.
Vous jouez bien, vous jouez dans Meltem, votre film Basile de Canis. On continue d'en parler juste après les actus.
Studio B, l'actu ciné.
Les actus, le box-office, donc avec ce film qui sera resté 5 semaines en tête du box-office. Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? Rétrograde en 3ème place avec encore 300 000 spectateurs supplémentaires, mais Christian Clavier n'a pas pu résister face à Captain Marvel, numéro 1 du box-office France cette semaine, avec 1 250 000 entrées. Seconde place, c'est le mystère Henri Pic avec Fabrice Lucchini et Camille Cotin qui fait un bon score aussi, 363 000 billets vendus. 4ème place pour Le Chant du Loup, que je vous conseille en particulier avec cette fête du ciné, choisi par 235 000 spectateurs supplémentaires cette semaine, ce qui le fait dépasser le million de spectateurs au total. Du côté des nouveautés de la semaine, c'est un échec. Damien veut changer le monde avec Franck Gastambide ne fait que 16e avec 70 000 billets vendus, et Exfiltré, dont nous vous parlions il y a 2 semaines avec le réalisateur Emmanuel Hamon, ne fait que 28 000 entrées. Des chiffres beaucoup plus gros forcément aux États-Unis où Captain Marvel fait le meilleur démarrage de l'année, 153 millions de dollars, c'est ça, de recettes sur le premier week-end. Un gros succès donc une nouvelle fois pour les super-héros. Oui, j'ai compté les zéros.
Oui, c'est ça. Attends.
Est-ce qu'on aura autant de gens qui signeront la pétition pour la Carioca, Camille?
Alors la Carioca, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est cette danse mythique dansée par Gérard Darmon et Alain Chabat dans La Cité de la Peur. Il y a 25 ans. Merci.
Alors on l'a fait quand on fera de la télé. Quand l'émission sera diffusée sur Beurre FM TV, on la fera.
Nous on est là, du coup on peut voir parce que je pense.
Pendant la pub alors.
S'il vous plaît, les auditeurs, si vous faites quelque chose, 2 secondes.
Et donc voilà, donc il y a une pétition qui a été lancée sur Twitter pour que les acteurs reproduisent cette danse lors du prochain Festival de Cannes, puisque bon, l'action de La Cité de la Peur se situe pendant le Festival de Cannes, et la pétition a quand même recueilli 29 500 signatures. Donc Pierre Lescure, président du Festival de Cannes, a répondu sur Twitter avec un petit trait d'humour, sans donner de réponse. Thierry Frémaux, qui est délégué général du Festival, n'a toujours rien dit, donc je ne suis pas sûre qu'on voit Alain Chabat et Gérard Darmon danser.
Ah, moi je pense qu'ils le feront.
Ah ouais, moi, bah, t'es plein d'espoir, c'est
allez,
bien.
Bah oui, c'est bien. Netflix reforme un couple mythique de cinéma.
Et oui, il y a 35 ans, Michael Douglas et Kathleen Turner se donnaient la réplique dans 3 films incontournables. À la poursuite du Diamant Vert en 84, Le Diamant du Nil en 85 et surtout La Guerre des Roses en 89. Et grâce à Netflix, le duo se reforme puisque Kathleen Turner fera une apparition dans la saison 2 de La Méthode Kominsky, dans laquelle Michael Douglas joue Sandy Kominsky. Elle interprétera Ruth Baderman, l'ex-femme de Michael Douglas. Elle remplace Jacqueline Bisset qui devait incarner le rôle à l'origine. Et on est très contents.
Les carrés.
Ah oui, qu'est-ce qui se passe, Samine?
Il y a Rabat qui voudrait savoir, en fait, parce qu'il ne connaît pas du tout de quoi tu parles depuis 2 minutes.
Kathleen Turner, c'est vrai.
Il m'a fait un signe. Il me dit, mais attends, mais de quoi
parle-t-il? Rabat, faut absolument regarder.
Je jure, c'est un imposteur.
Je vous conseille La Guerre des Roses, voilà, si vous ne l'avez pas vu, c'est formidable.
Aussi, je vous conseille.
Tu peux nous raconter un petit peu ce que ça raconte, s'il te plaît?
Très beau film.
Un petit résumé.
Si je ne m'abuse.
Pas de soucis, là-bas, on enchaîne. Les carrières de Felicity Huffman et Laurie Louglin en pause.
Oui, alors on a pu respectivement les voir dans Desperate Housewives et La Fête à la Maison.
Ça, tu connais.
Mais cette semaine,
franchement, c'était lourd.
Mais si on a beaucoup parlé d'elles cette semaine, bah, c'est pas pour Desperate, c'est pour une affaire de pot de vin destinée à faire entrer leurs enfants dans de grandes universités américaines. Les deux actrices ont été inculpées puis relâchées, mais bon, elles travailleront pas de sitôt puisque Lori Loughlin, qui joue Becky dans La Fête à la Maison, vient d'être écartée de la série, ainsi que de plusieurs projets de téléfilms sur la chaîne Hallmark.
À cause de cette histoire de pot de vin.
Exactement.
Eh ben non, ça plaisante pas.
Rigole pas là-bas.
Trois infos en bref pour terminer.
David Fincher pourrait bientôt réaliser un film de super-héros, ça on aime. C'est Idris Elba qui reprendra le rôle de Will Smith dans Suicide Squad 2. Donc le personnage sera toujours là, mais ça sera interprété par Idris Elba. Et pour les 40 ans d'Alien, il y a 6 nouveaux courts-métrages qui ont été tournés. Et vous pourrez les voir sur le site IGN à partir du 29 mars. Donc bon. Un court-métrage par jour.
Ah, c'est drôle ça, c'est sympa.
Ouais, c'est pas mal. Hein.
Alien, Idris Elba, David Fincher, c'est bon, tout le monde s'y tue.
Ouais. Alien, ça va.
Allez, reste avec nous, on parle c'est de même thème. Jusqu'à midi sur Beurre FM, c'est votre fil, Basile de Ganis, dans lequel se retrouve à l'affiche Rabanne et Toufeda et Lamine Soko, nous invités. Il y a aussi Daphné Patakia.
Caramel Cafri.
qui joue
Elias.
Et qui c'est
Ça y est, pour faire tout le monde.
Oui, ah, alors, tout le casting.
Dernière phrase, jeune tour, du son. Gros bisous à toi. Voilà.
Vous retrouvez toute la liste.
Oui, sur Allociné.
Exactement. Nous, on parle de Meltem, donc jusqu'à midi. Vous nous avez ramené un souvenir du tournage. C'est une vidéo, si je ne me trompe pas. On va la mettre en ligne sur la.
Non,
c'était une vidéo d'une scène sur les quads.
Et eh ben voilà, vous allez la mettre en ligne sur la page Facebook de Studio B, le temps de la voir pendant la pub, on revient et on en parle juste après. À tout de suite.
Jusqu'à midi, Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. Beurre FM, 11h midi, Studio B avec Christophe et Camille.
Le magazine ciné de Beurre FM avec nos invités aujourd'hui, Basile Doganis, Radbane Itoufela et Lamine Sissoko pour parler du film Meltem. Pendant que Lamine est encore en train d'essayer d'arriver à mettre la vidéo sur la page Facebook de Studio B.
La vidéo souvenir.
Regarde ce que tu fais parce que ça peut vite...
Sinon je n'avais pas du tout la vidéo.
Le ciel peut vite tomber sur toi. On peut vite t'enchaîner.
Ok, 1-0.
Ok, d'accord, j'ai peur.
Non, n'aie pas peur, t'inquiète pas.
Eh ben, le temps que la vidéo arrive sur la page Facebook de Studio B, on passe à la revue de presse.
Studio B, la revue de presse.
Des articles qui sont parus sur internet ou dans la presse écrite et l'occasion pour vous d'y répondre, notamment sur Transfuge. Frédéric Mercier écrit très joli long métrage de Basile Doganis qui flirte avec humour et gravité avec l'histoire des réfugiés syriens en Grèce. Est-ce que ce côté entre humour et gravité, c'était
bien sûr, ouais, c'est ça. On en a, c'est ce que ce qu'on disait tout à l'heure sur le mélange des genres, et c'est vrai que pour moi c'était très important d'essayer d'aborder cette question grave et ces questions au pluriel graves, mais avec une certaine légèreté, ou en tout cas de ne pas être uniquement dans un seul genre pur et strict.
Mais alors du coup, dans l'Obs, François Forestier écrit ce premier film de Basile Doganis a le mérite d'être bien intentionné, la crise des migrants est abordée avec sympathie, mais le défaut d'être désordonné. Hésitant entre la comédie burlesque et le drame social, le film s'enlise dans l'inconstance, c'est regrettable. Les personnages méritaient mieux, et Daphné Patakaya qui tient le rôle principal aussi.
Bah oui, après...
Est-ce que c'est pas un risque quand on veut faire du coup de la gravité et de la comédie?
Bien sûr que c'est le risque. Après, je suis pas le mieux placé pour dire si c'est réussi ou pas. Après, c'était l'ambition du film et je pense que chacun trouve l'équilibre plus ou moins réussi. Peut-être aussi que dans les attentes des uns et des autres, il y a aussi des a priori ou des goûts plus prononcés pour tel ou tel type de cinéma. Peut-être que, je sais pas, cette personne préfère aussi les genres beaucoup plus clairs et tranchés et n'aime pas les mélanges. Après, moi c'était vraiment l'ambition du film et je pense que de toute façon il y a de plus en plus de films qui opèrent comme ça des mélanges de genres et des hybridations assez réussies. Moi je pense que dans son genre et dans ses genres Meltem tire son épingle du jeu, mais encore une fois c'est pas à moi de le dire.
On vous rassure, nous on a aimé. Sur avoiralire.com, Claudine Levaneur qui dit que Daphné Patakaya c'est d'un seul regard transmettre au spectateur une émotion immédiatement palpable et c'est bien un Karam Alafri, réfugié palestinien de Syrie qui remporte tous les suffrages avec ses yeux qui témoignent sans tricherie de la douleur de son passé. Enfin Rabat Naïtoufela et Lamine Sissoko assurent sans faiblir le versant comique, c'est un peu ce qu'on a dit déjà, la partie où les rôles sont un peu dits, voilà, la partie comique pour nos deux acteurs qui sont invités. Est-ce que Lamine a réussi à mettre la vidéo?
Arrêtez de me mettre la pression.
C'est juste pour savoir. Il perd tous ses moyens là.
C'est Apple aussi, c'est compliqué.
Ah non, mais alors ça, je suis complètement d'accord. Alors, Apple.
Samsung, tu vois, j'aurais fait le truc enregistrement, bim badaboum,
fini.
D'accord.
Ouais. Ah, il y a un moment.
Alors, on va faire la pub de Samsung. J'espère que vous.
Moi, je m'attendais pas à ça, mais.
Si vous pouvez m'envoyer un chargeur, parce que j'ai perdu bien la semaine dernière.
Et moi, Samsung aussi, s'il vous plaît.
À un moment ou un autre, on va arriver sur la vidéo. On peut-être en parler. De quoi elle parle, cette vidéo, du coup?
On va pas tout gâcher. J'ai filmé Rabat et Karam en fait sur la scène du quad et en fait ils étaient en train de s'amuser comme deux cons et voilà. Et après on a failli faire plusieurs accidents parce que le petit jeune homme qui est là sur ma gauche en fait il sait pas conduire. Déjà d'une il a failli nous tuer mais pour de vrai dans la scène puisque au bout d'un moment
dans le film.
On devait
un peu se rapprocher mais lui se rapprochait vraiment pour de vrai mais on n'allait pas à une vitesse folle mais moi j'ai la personne qui conduisait c'était quand même Daphné t'as capté. Et j'avais peur, je me suis dit, waouh, vas-y, recule.
Lamine Sissoko est un trouillard. Ouais.
Non, c'est pas
trouillard. Il conduit
pas bien, Daphné. Rabanne étouffé là est un cascadeur.
Mais avec un mec comme lui, c'est super bon.
Bah, je fais mes propres cascades et tout va très bien. Voilà. Les Instatam, tu peux être habillé. Moi, je te dis, j'arrive dans le game.
Donc, bah, si jamais Lamine réussit à mettre la vidéo sur la page de Studio B, vous pourrez voir la vidéo. On ne sait pas.
C'est ça, vous peut-être aurez demain ou après-demain. Une scène de coulisses en direct, c'est parfait.
Et vous allez voir que je suis un pilote. Qui est
Ben voilà, justement, comment s'est passé le tournage ? Est-ce que c'était dissipé ? Est-ce que... J'ai lu que vous aviez laissé pas mal de place à l'improvisation.
Ouais, tout à fait. Ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment énormément. Et en fait, il y a à la fois le scénario écrit et les répliques écrites. Donc, bien sûr qu'on fait des prises avec le scénario tel qu'il est écrit. Même si ce scénario-là a déjà été, juste avant le tournage, réécrit pour intégrer des improvisations de répétition. Donc déjà, c'est une matière qui elle-même est un peu hybride. Mais même avec ça, moi, j'aime beaucoup prendre le temps de faire des improvisations. Et puis quand on a des comédiens comme les deux phénomènes, Rabat et Lamine, c'était aussi pour ça que je les avais pris de journée d'appel. On avait beaucoup travaillé l'improvisation. Donc c'est vrai que ça, c'était une partie très importante. Après, oui, ils sont un petit peu...
dissipé,
mais en tout cas,
ils ont ça leur va bien
vivant. Vitalité, c'est du spectacle vivant.
Mais très, très, comment dire, discipliné quand il le faut aussi. Donc c'était vraiment un bonheur de tourner avec eux, vraiment.
Merci de souligner notre professionnalisme.
Est-ce que l'improvisation, ça renforce l'impression de réel ? Est-ce que, selon vous, c'est...
Moi, j'ai le sentiment, en tout cas, que ça renforce à la fois l'émotion, parce qu'il y a des surprises, il y a de l'imprévu, il y a une spontanéité qui n'est pas calculée et qui, du coup, se transmet vraiment très intensément au spectateur. Il y a un effet de réel, parce que, voilà, les gens sont comme nature, entre guillemets, quand ils en arrivent à improviser. Et par contre, le danger, c'est pour ça aussi que je n'aime pas faire que de l'improvisation, c'est que ça peut vite tourner en rond, en fait, et ne pas faire progresser les scènes. Donc c'est pour ça que le mélange un petit peu de structuration écrite et d'improvisation, pour moi, ça permet le meilleur équilibre dans le jeu.
Alors restez avec nous, c'était pas prévu, on va devoir marquer une dernière courte pause avant de revenir pour la dernière partie de ce Studio B consacré au film Meltem. Restez avec nous, c'est Beurre FM, Studio B, dans encore quelques minutes à passer ensemble.
Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. Beurre FM, 11h midi, Studio B avec Christophe et Camille.
On continue ce Studio B consacré à Meltem, Studio B, le magazine ciné de Beurre FM, comme tous les dimanches. On est là jusqu'à midi, encore 5 minutes à passer ensemble et quelques questions encore à poser à nos invités, Basile de Ganis, Rabanne Idoufella et Lamine Sissoko, Camille.
Bah, on parlait d'improvisation juste avant la pause. Moi, je voulais savoir, Lamine et Rabat, est-ce que en tant qu'acteur, l'improvisation, c'est plus de liberté ou justement, il y a une plus grande appréhension, donc il y a plus de contraintes?
Après, ça dépend des acteurs, mais moi, pour ma part, je sais que je suis très à l'aise avec l'improvisation. Le seul hic, c'est que souvent, quand on fait de l'improvisation, quand on fait de l'improvisation, il y a des prises qui sont bonnes, d'autres qui sont moins bonnes, des prises qui peuvent être gâchées, par exemple, par le son, la lumière ou n'importe quoi d'autre. Et ces prises-là, elles sont plus exploitables. C'est pour ça que notre cher Basile de Ganis, cher maître d'orchestre, du haut de sa grandeur cinématographique, a instauré une petite technique qui s'appelle le replay. Donc, quand on joue, par exemple, avec Lamine, ou est-ce que je vais lui dire, vas-y, passe-moi le sel.
Replay.
Vas-y, passe-moi le sel.
Replay.
Vas-y, passe-moi le sel.
D'accord, allez, on a compris la garde. Le principe.
Allez, voilà. Ça, c'est une technique qui est à lui, propre technique.
Et aussi
Donc, si vous voulez, les autres réalisateurs, prenez-en de la graine, d'accord.
Il appelle ça le replay. Alors,
le replay, hein, exactement, ouais.
Mais on l'a trouvé ensemble, grâce à eux, pendant les répétitions de mon court-métrage. Mais c'est vrai. De journée d'appel, on s'est rendu compte que c'était la technique qui marchait le mieux pour pouvoir tourner en fait dans des immenses prises très longues, faire tout un découpage en fait, sans relancer le moteur et sans avoir à reconstruire à chaque fois l'énergie de chacun et la situation émotionnelle de chacun.
C'est bon, je pense que la vidéo, elle est sur Facebook. Voilà, on l'a.
Rabat a réussi.
C'est un travail d'équipe.
Passe décisive de Rabat.
Si vous voulez voir cette vidéo qui fait de quad avec des effets spéciaux, c'est ça.
Elle est fou de fou, elle est super
elle
bien.
Elle est directement sur la page.
Tu le prends sur le sien et par la suite tu me l'envoies sur le mien.
Bon, je sais pas si on va y arriver.
On va y arriver peut-être avec les questions que vous aviez envie qu'on vous pose. Et puis ensuite on mettra la vidéo.
Alors, tu n'as pas suivi, Christophe, car je l'ai déjà posé cette question. Non, je voudrais juste savoir pour finir, voilà la petite question que moi j'aime bien. Qu'est-ce que vous souhaiteriez que le spectateur retienne en sortant du film? Quelle est la chose principale, quel est le message principal de votre film, Basile?
Moi, en fait, je ne pense pas qu'il y ait un message. Et c'est plus des questionnements, des émotions. Moi, si à l'issue du film, à la fois, on peut entrer en empathie avec le personnage d'Elena et sa trajectoire émotionnelle, son deuil, en même temps, rire du comique, un peu du tragicomique des situations, et puis se questionner à la fois sur ce que ça signifie, l'identité, l'appartenance. Si on ressort avec ça, moi je suis très content, et c'est pas un message en particulier.
Rabat, Lamine ?
Moi c'est plus sur la question de l'identité, par rapport à tous nos personnages, en fait, si on arrive à comprendre en fait que il faut savoir se poser les bonnes questions parfois et surtout s'interroger sur le problème de l'immigration et surtout sur tout ce qui s'était passé en Grèce en 2015. Pour moi, on sort avec un bon point parce que c'est quand même là-dessus que le film y tourne.
Rabat, le dernier mot est pour vous.
moi, c'est plus à la question de la perception des choses et des gens.
C'est clair, France, merci.
On est vachement... Enfin, y a beaucoup de personnes encore qui vivent dans l'ignorance de ce qui se passe dans le monde et de, on va dire entre guillemets, les migrants, ce qu'on appelle les migrants en France. On entend des choses horribles, on entend des gens dire que ces gens-là vont nous voler notre travail, qu'ils vivent grâce aux aides et qu'ils vivent mieux que nous, Français, qui travaillons pour un SMIC. Et donc voilà, j'invite vivement les gens à aller voir ce film.
Pour changer cette vision un peu stéréotypée, justement.
Sinon, d'aller faire un tour.
vu que les séances sont à 4€.
Voilà. C'est 4 balles là en ce moment. C'est-à-dire qu'avec notre SMIC, on peut aller voir normalement.
On peut aller voir plein de fois.
Il n'y a pas besoin d'aide de la
chasse ni autre, donc allez-y.
Bon, c'est ça, profitez-en, mais le thème est à l'affiche pendant cette fête du cinéma. Ça tombe bien, 4€ la séance aujourd'hui, demain et mardi. On vous conseille donc vivement, mais le thème, merci Basile de Ganis, merci Rabanit Oufella,
merci
d'être venu nous voir en ce dimanche matin. La suite, c'est Philippe Robigeon qui vient prendre le relais et le book club d'actualité, un book club sur un sujet d'actualité aujourd'hui.
On va parler d'Algérie aujourd'hui, Christophe.
Avec votre invité, Philippe Néjib Sidi Moussa, docteur en sciences politiques et auteur de l'Algérie, une autre histoire de l'indépendance. Le book club, c'est maintenant sur Beurre FM. Le studio B, vous retrouvez à la podcast sur le www.beurrefm.net. On se retrouve aussi dimanche prochain entre 11h et midi. Nous aurons avec nous les dégâts et le réalisateur Varant Soudjian, réalisateur du film Walter. Donc bon dimanche et à dimanche prochain. D'ici là, n'oubliez pas, le cinéma, c'est mieux au cinéma. Ciao.
Studio B, le magazine ciné de Beurre FM.